entre nous soit dit. Pensée grecque et pensée juive avec Jacques Goetschel. Athènes et Jérusalem, deux villes qui désignent aussi deux sources de la pensée. La théologie chrétienne et la théologie catholique spécialement entend assumer ce double héritage et il paraît dès lors aller de soi d'accueillir le donné de la révélation biblique à travers les concepts de la philosophie grecque. Et pourtant la chose n'est pas si évidente que cela. La Bible n'est pas un traité de philosophie. En elle, le généalogique paraît primer sur le logique. À tel point que les mots qui signifient en hébreu les principes et les conséquences, abot et toledot, veulent d'abord dire les pères et les engendrements. Ne serions-nous donc pas passés à côté d'un autre sens de la vérité, d'une vérité plus vivante, plus inscrite dans la chair, plus incarnée, une vérité qui n'est pas dévoilement de l'être, mais épiphanie de l'autre, et où l'enjeu n'est pas l'adéquation, mais l'alliance. Pour penser les points de convergence, mais aussi de division entre la pensée grecque et la pensée juive, nous avons avec nous aujourd'hui Jacques Goetschel. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie avec une thèse sur Nietzsche et la théâtralité.
Tout à fait.
Mais vous êtes aussi, on pourrait dire, un éternel étudiant, comme le sont tous les juifs qui étudient la Torah. Et vous vous êtes mis à l'école notamment de rabbins ou de maîtres très importants au XXe siècle. Eliyahu Abitbol, par exemple, Léo Ashkenazi, qu'on appelait aussi Manitou, et Armand Abécassis. Alors, justement, j'aurais commencé par cette parole d'un hassid, Naaman de Breslav, qui dit, là où il n'y a plus de polémique, c'est qu'il n'y a plus de sages. Comment se fait-il que la vérité qui, on pourrait dire, voudrait converger vers une sorte d'universel, hein, spécialement dans la pensée scientifique, disons, hein, où tout le monde doit s'accorder, là, il faut qu'il y ait, d'une certaine façon, confrontation, contestation.
En effet, dans la tradition juive, talmudique en particulier, qu'on appelle plus généralement la tradition du Midrash, il est important de noter, et Rabbi Nachman de Breslav a raison de dire, que si effectivement il n'y a plus, là où il n'y a plus de polémique et de contestation, il n'y a pas de sage, la sagesse, en hébreu, c'est dit chorma, et effectivement la sagesse qui est celle de la Torah, la pensée qui s'exprime, qui n'est pas explicite dans les textes de la Bible, et dans la Torah en particulier, va être reformulée, non pas dans des catégories, des concepts par les rabbins de la tradition du Midrash, mais soit dans des récits, soit dans des textes de loi. Or, précisément, les rabbins de la tradition juive, dans le Talmud et dans le Midrash, de façon générale, se sont mis à entreprendre la lecture et l'interprétation des textes de la parole révélée au Sinaï qui est la Torah. Ils se sont aperçus effectivement que lorsqu'on lit un texte, lorsqu'on lit un verset, lorsqu'on lit un mot, eh bien, il est porteur non pas d'un seul sens qui serait dans un sens univoque et qui en cherchant une vérité une fois pour toutes et définitive voire absolue, parce que ce serait une parole divine et donc il n'y aurait pas à en discuter. Au contraire, les textes de la Torah et de manière générale de la Bible sont porteurs de sens multiples et ouverts à l'interprétation infinie. Ce qui fait que tel rabbin apportera telle lecture et le même texte, le même mot peut être soutenu par une interprétation différente, voire opposée. D'où l'idée de polémique et la sagesse se définit moins donc par la recherche d'une vérité et d'un sens univoque que par la recherche d'un sens multiple et infini.
Alors, justement, vous parliez de cette de ces deux manières de recevoir. Alors, bon, l'interprétation, bien sûr, mais aussi à l'intérieur donc du Talmud, du Midrash. Alors, je rappelle que ça veut dire l'enquête ou voire l'interprétation comme telle. Hein, ce qu'on appelle plus d'ailleurs spécifiquement Midrash, c'est le commentaire continu, on pourrait dire, de la Torah.
À un sens, oui.
Et des autres rouleaux qu'on lit lors des grandes fêtes, hein, notamment Midrash Rabbah, qui est un des grands textes de commentaire des Écritures. Mais on reçoit non pas dans des concepts, avez-vous dit, à travers donc des syllogismes ou des démonstrations, mais à travers deux formes, le récit, ce qu'on appelle la Haggadah, ou des textes de loi, la Halakha. C'est-à-dire d'un côté des récits qui souvent d'ailleurs mettent en scène des conversations entre rabbins et des disputations entre rabbins, et puis de l'autre côté, souvent des disputations à propos de lois, donc qui s'inscrivent dans l'existence concrète, dans la vie quotidienne. Donc le but n'est pas d'arriver à une sorte de terme spéculatif, mental, mais de remettre cela dans une dynamique de vie, soit l'application de la loi, comment je fais dans ma vie, ou alors soit la vitalité de la communauté qui étudie ensemble et qui se dispute ensemble d'une certaine façon.
Tout à fait. Et c'est important de le souligner parce que le Talmud, vous l'avez rappelé, est composé de deux aspects, pour le dire un peu brièvement, des énoncés qui relèvent de l'argumentation juridique, parce que dans la tradition juive, il n'y a pas vraiment parlé de recherche de vérité ou de preuve de point de vue de la logique et de la recherche de la vérité, mais s'enquête de rechercher par beaucoup plus le pan de l'argumentation plus que du raisonnement démonstratif en vue de conclure vers une pratique qui relève de la règle de conduite qu'il faut adopter quand on applique une loi et comment procéder, jusqu'où on peut aller dans tel raisonnement pour que la vie au quotidien, dans la vie du juif particulier ou dans sa communauté, il puisse être à même de répondre et d'appliquer une loi.
D'ailleurs, c'est pas seulement, pardonnez-moi de vous couper, mais même l'application, mais c'est aussi de montrer que dans la vie quotidienne, pourrait se présenter des cas, puisque aussi les rabbins inventent des cas théoriques qui sont assez improbables, mais qui viennent toujours mettre d'une certaine façon en question la loi. Par exemple, je prends l'histoire du fameux four du serpent dans le traité Baba Metzia, mais on dit que quand un objet a contracté l'impureté, une fois qu'il est brisé, eh bien, il n'est plus impur, puisque c'était l'objet tout entier qui avait contracté l'impureté. Alors, tout d'un coup, un rabbin arrive, Rabbi Eliezer, qui dit, oui, mais si un objet est lui-même constitué de fragments, il est déjà brisé dans sa constitution intime, est-ce qu'il est pur ou il est impur? Est-ce qu'il est encore dépendant des lois de la pureté et de l'impureté? Donc il y a toujours quelqu'un qui vient trouver un cas qui remet même la loi en mouvement. Ce n'est pas l'idée d'une application comme ça systématique.
Oui, tout à fait. Et vous avez raison d'évoquer ce cas qui est célèbre dans le Talmud, effectivement, où Rabbi Eliezer est confronté à ses collègues. Et effectivement, il est en polémique constante. Et effectivement, il y a le récit qui continue avec ce four qu'on appelle le four de Arnaï, qui était un four d'un monsieur qui s'appelait Arnaï et qui avait ces situations que vous avez évoquées. Et donc les rabbins devaient décider, effectivement, sur le cas que vous évoquez, si ce four est déjà brisé à l'origine, est-ce qu'il contient ou pas l'impureté. Et alors, de discussion en discussion, on arrive à cette situation invraisemblable et pourtant qui donne beaucoup à penser. Et les rabbins, devant Rabbi Eliezer, l'invitent à apporter des preuves. Et Rabbi Eliezer, qui était très jeune à l'époque, il dit effectivement, eh bien, si j'ai raison, bien que le caroubier qui se trouve là se déplace. Et effectivement, le caroubier s'est déplacé de 50 coudées ou de 100 coudées selon les versions. Et les rabbins se disent, mais c'est pas possible. Alors, effectivement, et on reprend la discussion, et puis les rabbins tiennent tête, et Rabbi Eliezer également. Eh bien, si j'ai raison, bien que le ruisseau ici apporte la preuve. Et on voit le ruisseau, l'eau remonter vers sa source, dessus le courant naturel. Il inverse le courant. Et les rabbins sont également bouleversés par ça. Et puis, Rabbi Eliezer tient en tête également. Et puis, arrivé à ce moment donné, eh bien, les rabbins ne sont pas contents de ces preuves-là. On ne peut pas accepter que des situations comme ça puissent apporter des preuves. Et puis, à un moment donné, Rabbi Eliezer, il dit ben, que les murs dans le Beit HaMidrash, l'école où on étudiait, eh bien, s'écrasent, tombent. Et à un moment donné, on voit effectivement les murs du Beit HaMidrash commencer à pencher, et bien, ça s'arrête. Et il s'arrête de pencher. Et à ce moment-là, les rabbins sont étonnés, ils ne voulaient pas être écroulés. Et on dit que c'est un miracle s'est produit pour empêcher précisément que les murs ne s'effondrent, mais ça montre bien que, quelque part, la volonté et décision de Rabbi Eliezer, il a raison. Et à un moment donné, on dit qu'il y a une bat kol, une voix divine qui est intervenue et qui a dit effectivement que c'est elle qui a donné l'ordre aux murs de s'arrêter de pencher. Et effectivement, les murs se sont arrêtés de pencher pour tomber. Et la bat kol dit effectivement c'est Rabbi Eliezer qui a raison. La voix est remontée au ciel et a demandé à Dieu que faire. Et on dit effectivement que les
Rabbi Yehoshua se lève à ce moment-là.
Voilà, c'est là. Et il dit effectivement que la Torah, il est écrit dans la Torah que l'Obachamimhi, la Torah n'est plus au ciel et qu'il appartient maintenant aux juifs, aux rabbins, de décider de la loi. La Torah a été donnée pour nous, les rabbins, a été décidée. Donc la Torah, l'Obachamimhi, c'est écrit dans le Deutéronome, la Torah n'est plus au ciel, donc c'est aux hommes de décider de quoi faire au niveau de la loi.
Oui, parce que la loi est dans ta bouche et dans ton cœur. Ne demande pas qui ira me la chercher au ciel parce qu'elle n'est pas au ciel.
Tout à fait. Et donc, la Torah appartient donc, aux hommes, c'est aux sages, dit le verset, également de Deutéronome, qui ont à la charge de prendre des décisions pour la conduite à tenir, les règles qu'il faut élaborer pour que les hommes puissent effectivement se conduire selon la halakha. Et alors, à un moment donné, bon, on s'aperçoit que les rabbins ici ont raison, mais la bat kol est revenue auprès de Dieu, et on dit de Dieu, et c'est extraordinaire, il dit « Mes enfants m'ont vaincu, ouais. Mes enfants m'ont vaincu ». Quelque part, Dieu se dit, parce qu'il est désolé, mais effectivement, il comprend que les rabbins...
Il se réjouit
quelque part que les rabbins ont enfin compris ça. « Mes enfants m'ont vaincu », donnant raison à l'un et donnant raison à l'autre, c'est les hommes qui... Mais il dit quand même que Rabbi Eliezer a raison. Mais quelque part, les rabbins ont raison de dire effectivement que la Torah est de leur côté et c'est à eux de décider de prendre
Oui, c'est-à-dire qu'avoir raison ici ne signifie pas que c'est fini et qu'on vous cloue le bec, quoi, voilà, d'une certaine façon. Ouais. C'est l'inverse. Il faut que l'autre ait sa parole aussi sur la même loi. Donc là, on est passé d'ailleurs d'une question de halakha à une agada, c'est-à-dire à une histoire. Et voilà, parce que cette histoire du four et des débats qu'il y a eu aussi.
Tout à fait. Et souvent, quand on lit le Talmud, quand il y a un argument, un raisonnement juridique qui apparaît dans la loi, très souvent, il y a une agada qui suit, soit pour apporter un cas nouveau, une discussion, ou bien un récit, ou une anecdote, ou bien une interprétation d'un verset qui a peu ou prou à voir avec la discussion dont on vient de parler. Et c'est comme ça que fonctionne, par digression continue, le Talmud.
Donc en fait, c'est la question de la loi se pose tout le temps, mais en fait, c'est tout le contraire d'un légalisme, puisque la loi... quel est le sens du mot loi, d'ailleurs, en hébreu ?
En hébreu, on dit halakha, c'est un terme qui vient du verbe halor, qui veut dire marcher. Et donc on marche, on ne s'arrête pas. Et donc, la loi n'est jamais fixée une fois pour toutes. Il est vrai que pour des considérations générales pratiques, il faut une fois fixer la loi pour qu'on puisse l'adapter à la situation du cas qui se présente. Il faut quand même prendre une décision. Il y a des décisions, il faut, à un moment donné, arrêter de discuter. Il faut, comme dit Greg Stanley, il faut s'arrêter. C'est-à-dire, quelque part, il faut aussi, d'une certaine manière, prendre une décision pour savoir quelle est la réponse à adopter, à adapter à la situation, au cas qui se présente. Cela dit, la démarche de réflexion pour qu'une loi puisse être à même de répondre aux cas qui viendront par la suite est toujours en mouvement. La halakha veut dire marcher, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter de poursuivre la réflexion sur l'élaboration de la loi.
C'est ça, donc ce n'est pas un simple relativisme, ni un culte de... Parce que d'ailleurs, penser que c'est du relativisme, ce serait encore penser à partir des catégories grecques, d'une certaine façon.
Tout à fait.
Ni à le simple esprit de contradiction, ou quelque chose qui serait une sorte de culte des forces centrifuges, où chacun va s'amuser avec... Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'au fond, d'après ce que vous disiez, parce qu'il y a un moment où il faut aussi dire par rapport à un cas... Et en fait exercer la justice, que derrière tout ça, il y a cette idée que la vérité n'est pas d'abord la vérité spéculative ou métaphysique, mais une vérité qui est éthique, finalement. C'est ce que dirait Lévinas, l'éthique comme philosophie première. Il ne s'agit pas d'avoir un contenu spéculatif dont sur lequel on serait tous d'accord.
Tout à fait.
Mais le fait d'être l'un avec l'autre, même si on n'est pas d'accord, mais au moins de tenir ensemble l'un avec l'autre, et aussi on débat sur la loi pour mieux accueillir l'événement qui vient d'arriver, le cas particulier qui arrive, pour l'ajuster vraiment à ce qui est vivant, à ce qui est présent, et donc toujours dans cette dimension éthique, plutôt que d'arriver à une sorte de vérité générale spéculative.
Oui, c'est le menace qui fait effectivement, le Talmud, c'est un ensemble très composite et qui relève de la casuistique. On n'a affaire que des cas particuliers dont on tire des principes généraux et à partir desquels d'autres cas vont se représenter. Est-ce qu'il faut sous la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il faut toujours soumettre le cas à une loi générale qui, elle, a priori, ne change pas. Et c'est les cas qui viennent modifier le rapport à la loi. Alors, c'est pas qu'il faut prendre, comme vous avez dit au début, non pas la loi d'une manière strictement juridique, mais il faut prendre, comme dit Amosel, l'esprit de la loi. Et c'est ça qui fait que la elle est toujours en mouvement. Il faut garder de la loi son esprit. Dans quelle intention la loi a été formulée de cette manière? De quelle manière cela peut se dire? Et c'est ainsi précisément que la vérité est quelque chose qui s'inscrit dans une dynamique. Elle n'est pas portée dans l'absolu. Elle n'est pas une nouvelle en tant que telle, à tel point que le Midrash dit que lorsque les anges qui représentent telle ou telle valeur, dont la vérité, la paix et d'autres valeurs, on dit que Dieu, il a pris la vérité et qu'il voulait s'imposer parce que c'est elle qui devait imposer à l'homme sa valeur pour que le monde puisse exister. On dit que Dieu a pris la vérité et il l'a jetée par terre. Et alors il y a un psaume un verset d'un psaume qui dit effectivement que de la terre germera la vérité.
Oui. Et donc du ciel se penchera la justice.
Voilà. Donc effectivement on comprend ici cette idée, c'est que la vérité est quelque chose qui doit germer de l'homme quelque part. Elle appartient à l'homme, c'est à lui de la faire jaillir, de la faire germer. Et donc elle doit pousser. Lorsqu'elle est sur Terre, et c'est l'homme qu'appartient l'idée qu'il faille développer et entretenir, nourrir cette vérité, parce qu'elle n'est plus absolue, elle dépend de l'homme, comme on l'a dit tout à l'heure à propos de Rabbi Eliezer et des rabbins, ben c'est à l'homme de décider de ce qu'il faut porter et préciser dans tel ou tel cas, pour que la justice, comme vous l'avez dit, effectivement, soit humaine, et pas trop humaine, ni divine. Elle est à la portée de l'homme. D'ailleurs, c'est un des enseignements d'un des grands maîtres, le maître qui s'opposait à Rabbi Akiba, qui appelait Rabbi Ishmael, qui dit « La Torah, elle parle le langage des hommes. Si Dieu parle, je ne sais pas quelle est sa parole, je ne connais pas sa manière
sa
de
pensée,
parler, sa
voilà.
pensée non plus, on ne peut pas se mettre à la place de Dieu, c'est-à-dire qu'on sera enterré à lui. On a de Dieu que sa parole qui s'appelle la Torah. Mm-hmm. Donc c'est à nous de l'interpréter, comment cette parole qui est divine peut être accessible à l'homme, si ce n'est dans le langage de l'homme. Donc c'est à l'homme de voir ce qui est signifié à travers cette parole qui a été révélée.
Oui, certains ont d'ailleurs parlé du don de la Torah déjà comme une sorte de kénose, enfin vraiment de descente de Dieu qui d'une certaine façon anéantit son infinité, son incompréhensibilité pour se rapprocher de l'homme. Alors justement, on va reparler de cette question du rapport entre la lettre et l'esprit finalement, puisque c'était ça la lettre de la loi. On va essayer de voir comment justement même la lettre de la Torah est elle-même déjà spirituelle, nous impose d'aller vers une interprétation et des interprétations multiples. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très intéressant ici. On part d'un même présupposé, une même prémisse. Les Écritures viennent de Dieu, donc elles sont plus grandes que nous. Et que ces prémisses, on le trouve aussi bien dans l'islam, par exemple, que dans le judaïsme. Mais l'islam va dire, puisque ça vient de Dieu, pas d'interprétation, c'est une dictée divine, donc voilà, c'est... Et le juif va dire au contraire, puisque ça vient de Dieu, c'est plus grand que nous, donc il y a toujours plus de sens, donc une infinité d'interprétations. C'est très intéressant, on part de la même chose, mais on arrive à deux pratiques complètement opposées.
Tout à fait, tout à fait. Bon, je connais assez peu l'islam et le Coran. Ce que vous avez dit, c'est tout à fait pertinent, parce que on ne peut pas prendre les mots tels qu'ils sont présents. On croit lire des mots et c'est cela qui apparaît. Je crois qu'il faut comprendre, comme vous l'avez dit très justement, que chaque mot, chaque lettre est porteur d'un sens infini. Parce que la parole de Dieu, elle est infinie, et c'est à nous de rendre sensible, de rendre compréhensible cette infinité du sens. Et ce qu'on appelle le Midrash. Le Midrash, c'est précisément cette manière juive d'interpréter l'infinité du sens qui se trouve dans la parole divine. Et c'est la seule manière que nous avons d'accéder à ce que Dieu est en train de dire, beaucoup plus que la manière dont les hommes sont capables, du point de l'extérieur, de dire quelque chose sûr. Et c'est important de comprendre, par exemple, ce que dit Lévinas, que la tradition juive, que la transmission se fait dans la possibilité que l'homme a de comprendre que la Torah est en train de dire quelque chose, c'est beaucoup plus le pouvoir dire que le vouloir dire. On ne dit pas ce que le texte veut dire, parce qu'on ne saura jamais ce que la volonté de Dieu, si ce n'est la parole qu'il a énoncée dans les textes de la Torah et des prophètes, mais également le fait qu'il ouvre une possibilité infinie à ce sens. Le sens, il n'est jamais donné, il n'est pas implicite dans le texte, et il est dans le travail de l'étude, de l'approfondissement, à tel point que les mots, les versets se suivent de cette manière-là, et il y a une manière inversée d'inverser les mots et les phrases de telle sorte qu'on lise tout à fait autrement. Alors, la manière dont c'est présenté.
On peut en parler, justement. Ce qui est très curieux, c'est que quand on pense l'interprétation chez les Grecs, pour revenir à notre sujet, le traité de l'interprétation d'Aristote, il s'agit justement de suivre une voie qui est inverse à celle de l'expression. Le mouvement de l'expression, c'est d'aller de la pensée vers la parole, écrite ou orale, et l'interprétation consiste à aller de la parole vers la pensée. Donc, en général, la logique de l'interprétation, c'est d'essayer de comprendre ce que ça veut dire, ce que celui qui a écrit a voulu dire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est essayer d'enlever toutes les équivoques, essayer de rendre le message plus clair et de faire en sorte que ce qui pouvait avoir plusieurs sens, ben, n'en ait plus qu'un seul. Et on a l'impression que la pratique de l'interprétation juive, curieusement, c'est pas l'inverse de l'expression, c'est encore, on pourrait dire, de l'expression. Ouais, on pourrait dire tout à fait presque ça. Chacun va s'exprimer encore. Il ne s'agit pas de remonter à l'idée qu'avait Dieu derrière la tête quand il a dit cela, mais c'est plutôt nous, comment nous nous situons face à cette parole. Et alors, il y a des pratiques juives d'interprétation qui ne cessent d'ouvrir toujours davantage de possibilités. C'est-à-dire qu'on va aller davantage vers l'amphibologie, vers l'équivocité, vers la plurivocité de chaque... Alors qu'on pourrait parler de certaines de ces méthodes, parce que bon, il y a le mot. Alors déjà, c'est une langue consonantique, donc on peut le vocaliser de plusieurs façons. Voilà. Est-ce qu'il y a des exemples, par exemple, de mots qu'on pourrait entendre de façon complètement différente par la vocalisation?
Il y a des mots, effectivement, qui sont très, très, très pertinents dans la traduction. Je donne le verbe. Il est vrai que l'hébreu est une langue consonantique, et que la voix, a priori, ne peut pas s'écrire. Lorsqu'on parle, on entend une voix, et la voix, en tant que tel, même si c'est un mécanisme physique, bien décrit par les physiciens et les acousmaticiens, les spécialistes de la voix, les phonologues, eh bien, on sait bien qu'à ce niveau-là, au-delà des simples vibrations, la voix, c'est ce qui est en train de se dire à travers des mots. On a que les mots comme lieu de communication, de passage de quelque chose à quel la voix renvoie, mais qui ne peut pas se dire. Donc on dit que lorsque Dieu a parlé, on a entendu sa voix au Sinaï, quelle est cette voix? Et donc elle s'est éclatée de multiples façons. Et le mot, par exemple, que je voudrais prendre, par exemple, c'est le verbe l'ilmod, l'amed. On peut le lire, si on prend les trois lettres du mot lamed en tant que tel, eh bien, si on change les voyelles, ça veut dire aussi bien apprendre que transmettre ou enseigner. Donc c'est exactement, on dit apprendre, c'est recevoir un enseignement, et enseigner, c'est donner. Et donc de la même lettre, quand on change les voyelles, on change complètement la perspective, alors que le même mot peut dire la relation qu'il y a entre celui qui enseigne et celui qui apprend. Et donc ça montre bien effectivement que lorsqu'on a un mot, eh bien on peut changer les voyelles pour changer complètement la configuration. Il y a d'autres mots, par exemple le verbe Tolada, dont on a parlé tout à l'heure, quand on dit au pluriel Toldot, on voit souvent ce mot dans la Torah, dans d'autres textes des prophètes. Toldot, littéralement, ce sont les engendrements. Et les Toldot Adam, voici les engendrements de l'homme. Et les Toldot Yitzhak, voilà les engendrements de Isaac. Et on s'aperçoit que ce qui suit immédiatement les engendrements, on voit un enfant, on voit une généalogie, on voit effectivement, alors que par ailleurs, dans le texte du Talmud, Toldot, ça veut dire le dérivé, la conséquence dont vous avez parlé tout à fait au début. Donc effectivement, on comprend ici qu'il y a quelque chose de très important, c'est que l'interprétation, le Midrash, c'est d'ouvrir un mot au-delà de ce qu'il est en train de dire. Et c'est une manière différente des Grecs, pourquoi ? Parce que, comme disait un des plus grands, Platon, et qu'on a repris par Aristote, la philosophie commence avec l'étonnement. Et bien sûr, c'est la Mara aussi. La question, c'est toujours une question d'étonnement. Mais la différence entre les deux, c'est que Platon et les philosophes grecs recherchent par l'étonnement la question « qu'est-ce que tiesti ?» C'est la question de « qu'est-ce que c'est ?» Et la manière juste de s'étonner, c'est de dire « comment les choses sont dites ?» Donc c'est tout à fait une autre perspective de l'étonnement. On cherche non pas à savoir la vérité, qu'est-ce que c'est, l'essence des choses. On dit la manière dont les choses sont dites. Et donc la question de la tradition midrashique, c'est-à-dire comment le langage dit, comment on dit les choses de cette manière-là, et non pas l'essence des choses. On cherche beaucoup plus, comment dire, non pas la vérité, mais le sens. Et donc si ça se dit de cette manière, on peut le dire autrement. On ne cherche pas à la quête de la, on n'est pas à la recherche d'une vérité, on est à la recherche du sens, et le midrash a cette fonction précisément. Pourquoi en parler de cette manière? On peut le dire autrement, on peut encore une autre façon, et une infinité de façons qui montrent qu'on peut lire et interpréter le texte de différentes manières, et souvent contraires l'une à l'autre. Alors que dans la démarche grecque, on veut une vérité, on ne peut pas la dire autrement.
Alors justement, le fait qu'il n'y ait que des consonnes, ça signifie, dans l'écrit, ça signifie que l'écrit c'est un dit, mais qu'il n'est pas encore en train de dire, il n'est en train de dire que s'il y a ma voix qui s'y prête.
Tout à fait.
Donc il dit qu'il est incomplet et qu'il attend le lecteur, qu'il attend mon interprétation. Vous preniez une autre fois cette image de celui qui souffle sur les braises, c'est-à-dire que voilà, les braises, tant que personne ne souffle dessus, elles ne rougeoient pas, mais il faut qu'il y ait le lecteur qui souffle. Il faut qu'il y ait ma voix pour que les braises rougeoient donnent leur chaleur et leur lumière.
Ouais.
Mais alors, on a pris cette possibilité de vocaliser différemment, mais il y a d'autres méthodes encore assez étonnantes, alors là, qui nous sont très, très étranges pour nous. Il y a par exemple le tserouf, le fait d'utiliser les anagrammes, puisque ce sont que des consonnes, on peut mélanger les lettres et en disant, ben voilà, ce mot, si on permute les lettres, ça a un autre sens, par exemple. Il y a ce cas-là. Et alors les rabbins utilisent beaucoup cette méthode-là aussi.
Ça arrive aussi. Certains rabbins qui, effectivement, travaillent sur la combinaison de certaines lettres, soit en inversant l'ordre dans lequel ils sont présentés, soit en le mettant dans un ordre différent, et ça donne des lectures tout à fait étonnantes, qu'on ne peut rarement faire qu'avec d'autres langues. Ça existe aussi. Certains poètes se sont contenus à ça. Je pense à Edmond Jabès qui voyait qu'il entendait le mot feuille, il voyait feu et œil. Oui. Donc voilà, ça peut exister dans certaines langues aussi quand on est attentif à la sonorité en tant que telle. Mais les rabbins vont infiniment plus loin. Alors, pour prendre un exemple qui est très simple, quand on prend le mot, par exemple, comment dirais-je, le mot. Ah, je viens pas de l'esprit tout de suite.
Moi, j'avais un exemple qui était l'exemple de Moshe. Moshe, qui est le nom de Moïse, c'est le nom c'est le nom.
Ouais.
C'est Hachem dans l'autre sens.
Voilà, on pense à ce mot, effectivement.
Et en fait, c'est très intéressant, c'est que Moshe, on nous donne l'étymologie, celui qui est tiré des eaux. Mais qu'en même temps, on pourrait presque dire que c'est quand le nom divin qui est au ciel se reflète sur les eaux, on le voit en sens inverse, et donc on lit Moshe.
Voilà. Ouais, c'est un truc comme ça, mais ça va beaucoup plus loin, parce que Moshe, on lit Hachem, il y a le mot, sur l'inverse, on a fait le mot Shoam, qui sont le mot qu'on trouve dans le texte de la Genèse, ou dans lequel un des fleuves qui sortait du jardin d'Éden, il y avait des pierres de Shoam. Et donc c'est le même mot aussi inversé. Maintenant, quel est le rapport il y a entre Hachem, qui veut dire le nom Moïse et le Bershoam, ça, le Midrash explore tout à fait cela.
Et toutes les possibilités de sens existe, jouant là-dessus, sur l'anagramme,
et c'est pas des jeux gratuits, parce que c'est porteur de sens, signification que les rabbins, beaucoup des kabbalistes évoquent très souvent. Donc, il faut comprendre aussi qu'il y a des mots qui portent un sens, pas seulement parce qu'ils sont composés de telle ou telle lettre, mais on le retrouve par ailleurs, le même mot. Et c'est ce qu'on appelle dans la tradition occidentale l'intertextualité, ce qui permet de trouver qu'un mot étant présent dans ce tel contexte, on sort le contexte du contexte et on trouve le mot pour donner une autre signification quand on revient dans le même texte.
S'il y a cette idée que dans la Torah, il n'y a pas d'avant ni d'après, donc que tout est simultanément présent. Je pourrais dire, voilà, pour comprendre tel passage du texte, je peux lire n'importe quelle autre partie
avec la
Torah qui pourrait y renvoyer.
Il y a un principe très important, il n'y a pas d'avant ni d'après dans la Torah. Et quand il suffit de regarder très simplement, linéairement, les récits qui sont rapportés, par exemple, dans la Genèse ou dans d'autres lieux, il y a des éléments qui, du point de vue chronologique, ne sont pas à leur place. Et donc, s'ils ont, sont présents à tel moment, c'est pour signifier telle chose. Alors que chronologiquement, ils ont lieu avant ou après. Donc, c'est important de signifier, de comprendre que le texte, disons, de la Torah, en tant que tel, n'est pas un livre d'histoire. Ça ne se lit pas comme un livre, il n'y a pas un début et une fin. Justement parce que les récits, la composition des versets est faite de telle sorte que si on les amène de cette manière, et les rabbins se donnent pour tâche précisément de comprendre pourquoi c'est cet ordre-là qui a été mis par écrit de cette parole de Dieu, et que ça donne la démarche qui excède du Midrash, qui se dire qu'il ne faut pas lire comme c'est ça, mais autrement. Alors, je donne un exemple qui donne aussi les rabbins, dont en prise de Zalamo Halakha, il y a marqué dans un verset que il faut suivre les voies de Dieu, les ilachot de Dieu, les voies de Dieu. Alors, les rabbins disent, il ne faut pas lire, quand on change de voyelle, non pas ilachot, mais halachot. Il ne faut pas lire les voies, mais les lois. Quand on change la voyelle, c'est exactement les mêmes consonnes, et on change des voyelles, au lieu de dire les voies de Dieu, il faut suivre les chemins que Dieu nous présente, mais non pas les voies, mais les lois. Ça montre bien qu'effectivement, dans l'esprit du rabbin, quand le texte a dit effectivement les lois avec telle voyelle, on change les voyelles et on a effectivement...
On cherche autre chose.
Tout à fait autre chose qu'il faut entrer dans le même mot. Les deux sont inclus, mais il faut lire autrement, de toute façon, ça donne une ouverture.
On va même dans une considération des lettres, puisque dans le texte massorétique, qui est la version... qui est la version, je dirais, courante, de la Bible, du texte écrit. Alors, parfois, il y a des choses qui semblent étonnantes, tératologiques, puisque parfois, il y a des lettres qui sont tout petites et puis d'autres qui sont très grosses. Parfois, on peut écrire le même mot avec pas les mêmes lettres. Nous, on peut rajouter un vav ou pas le mettre, puisque le vav peut se prononcer ou pas. Donc voilà, par exemple, Toledot s'écrit parfois...
Avec ou sans le vav.
Avec ou sans le vav, avec les deux vaves parfois. Et alors, ça aurait un sens, parce que quand il y a les deux vaves, c'est une plénitude d'engendrement. Quand il n'y en a pas, on se rend compte que par exemple, pour Yitzhak ou Jacob, il y a les deux. Et puis pour Ismaël, il n'y en a qu'un.
Oui, tout à fait.
Parfois, il n'y en a pas, c'est à l'écriture défective. Il y a des petits points parfois aussi. Alors, on interprète ces points, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire parfois, mais voilà. Et alors, on considère aussi les lettres. Par exemple, le mot vérité, qu'on a employé à plusieurs reprises ici, émet, est constitué de la première, de la dernière lettre de l'alphabet, de la lettre du milieu au milieu. Donc, la première, celle du milieu, celle de la fin, et constitue le mot. Donc, il y aurait toujours ce jeu. On a l'impression que chaque mot réserve des surprises, des découvertes. Et alors, on va encore plus loin, puisque même on considère les lettres dans leur graphie même. Par exemple, le lamed, vous avez parlé de cette lettre, L, mais qu'est-ce que ça veut dire lamed et comment est-ce qu'il s'écrit?
Alors, c'est la seule lettre qui, dans l'alphabet hébreu, on sait que les lettres, lorsque le scribe, le sofer en hébreu, écrit le sefer Torah, on sait que les lettres, quand elles sont écrites, elles sont suspendues sur la ligne supérieure, alors que dans les calligraphies occidentales,
elles sont posées sur
la ligne. L'écriture hébraïque, elles sont suspendues à la ligne supérieure et non pas posée sur la lettre inférieure. Et la seule lettre qui dépasse la ligne supérieure, c'est le lamed, précisément la partie haute du lamed, quand on le voit dans la graphie actuelle. Et on s'aperçoit que c'est un enseignement extraordinaire. C'est que, on l'a dit tout à l'heure, lamed, l'ilmod, le fait d'enseigner, d'apprendre et de transmettre donc la loi ou le récit, l'interprétation, le midrash, c'est toujours pour aller au-delà. Au-delà du verset, c'est au-delà, viser la transcendance, viser quelque chose qui dépasse. C'est-à-dire que l'enseignement, l'apprentissage, c'est toujours aller au cœur même du texte en le dépassant. C'est-à-dire que, comme dans la relation maître-élève, le maître, il enseigne, l'élève doit dépasser son maître. C'est quelque part que celui qui reçoit l'enseignement, il doit en même temps être capable, non seulement de recevoir ce qu'il a reçu, mais il devait mettre à son tour, que dans la mesure où il a été enseigné, éduqué, formé pour dépasser le maître à son tour, devenir maître à son tour. Et ça, c'est l'essentiel de l'éducation juive dans la transmission. C'est que depuis Moïse et la chaîne de tradition de transmission qui a lieu, eh bien, les rabbins qui vont suivre, qui vont enseigner la tradition qui était orale essentiellement avant d'être écrite et transcrite pour des raisons d'oubli, de mémorisation, etc., eh bien, la tradition orale fait que précisément celui qui va succéder à un maître doit toujours énoncer l'enseignement de son maître en son nom jusqu'à Moïse, Et on termine très souvent dans la Gemara et dans le Midrash, Alaha comme Moshe Mitzvah, Alaha telle que Moïse l'avait donnée. C'était la Torah chez Béalpé, la Torah orale. Elle est toujours là pour montrer qu'il faut toujours se référer à l'origine d'où la parole a été donnée, la Torah orale. Et c'est à partir de là, effectivement, que toute la démarche de la compréhension a lieu. Pourquoi on ne comprend un texte que si on l'a d'abord reçu? Et c'est, il faut toujours dire à l'Émias, recevoir la Torah pour qu'elle puisse être transmise.
On peut toujours recevoir toujours plus que ce qu'a transmis le maître, finalement, c'est aussi ça. Parce que cette Torah que Moïse transmet, ça n'est pas lui qui en a épuisé les significations. Donc à chaque fois, il nous transmet quelque chose que chacun peut recevoir des choses que Moïse n'avait même pas entendues d'une certaine façon.
Ouais, c'est ça. Donc lui, il avait compris en tant que Moïse, il reste Moïse toujours, et donc lui, il a entendu des choses, il a transmis quelque chose à son élève Josué et Moïse et Josué aux autres juges, puis les juges aux membres de la grande assemblée, et ainsi de suite jusqu'à la Mishnah et à la Gemara, et encore jusqu'à aujourd'hui. Cette transmission orale, elle est toujours dans la dynamique, et on ne peut pas modifier quoi que ce soit de ce qui a eu lieu à l'origine. Bien sûr, se joue ajouter quelque chose de plus. On va toujours enrichir un sens nouveau qui n'existait pas auparavant. Mais c'est ça la grande force de la tradition midrashique et du Talmud, c'est de se dire, eh bien, effectivement, dans la transmission juive, il y a cette idée, je crois, essentielle que le midrash est formé et constitué, à savoir précisément que il y a, on dit, il y a une maison d'études, Bate Midrash, Belo Chidush sans Chidush. Il n'existe pas un lieu d'études où il n'y a pas un Chidush, quelque chose de nouveau. Et chaque fois qu'un maître a reçu un enseignement, il devient maître à son tour que s'il a ajouté quelque chose de plus à l'enseignement qu'il a reçu. Et ça, c'est très important, parce que la dynamique de la halakha qu'on a dit tout à l'heure, ou la dynamique de l'interprétation des récits agadiques, eh bien, c'est d'ajouter quelque chose de nouveau, pas nouveau radicalement, mais nouveau dans le sens où c'est un nouveau sens qui était déjà reçu au Sinaï, mais qui n'a pas été dit encore. Et donc, il appartient donc au rabbin, au rave, au maître, d'expliciter et de donner un nouveau sens à ce récit, ou à ce texte, ou à ce mot, tel qu'il a été donné. Donc, la nouveauté, le chidush, cette idée de renouvellement est très important, puisque ça se trouve non seulement dans l'interprétation en tant que l'est, mais au quotidien, il faut vivre. Il faut que qu'on vit au quotidien, le lendemain, il doit être repris, répété, mais sous une autre forme. Et c'est très difficile dans la vie quotidienne de vivre ce renouveau chaque fois.
Mais on pourrait dire, si on adoptait un point de vue grec, on pourrait dire que finalement, il n'y a jamais d'argument de démonstration chez les juifs ou dans les pratiques talmudiques, mais simplement des arguments d'autorité. On serait dans le domaine où voilà, c'est vrai parce que Moshe Rabbi nous l'a dit, hein, Moshe notre maître l'a dit, c'est dans l'écriture, ou alors c'est vrai parce que Rabbi un tel l'a dit. Alors on cite toujours ses maîtres, hein, c'est assez extraordinaire. Dans le Talmud, on voit toujours un rabbin qui prend la parole, qui le dit au nom d'un autre rabbin, qui lui-même le disait au nom d'un autre rabbin. Alors on a toute cette chaîne comme ça, on insiste sur mais on ne serait que dans des arguments d'autorité. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est autre chose que la simple idée d'argument d'autorité? Parce que c'est comme ça qu'on va l'interpréter, finalement, si on reste au niveau spéculatif grec.
Voilà. À ce niveau-là, l'argument d'autorité, il est apparemment celui que vous présentez, à savoir, un tel l'a dit, donc...
Un tel d'important l'a dit, donc ça doit être vrai.
Voilà. Ouais. Alors, on ne dit pas que c'est vrai qu'il l'a dit, mais ce n'est pas vrai dans l'absolu. Ouais. Ouais, c'est pas vrai dans l'absolu, c'est-à-dire que celui qui vient à la fin de la chaîne, au moment où il reçoit cet enseignement, c'est vrai jusqu'à maintenant. Mais moi, je dis ceci. L'audace inouïe des rabbins, c'est-à-dire, c'est vrai que cela a été enseigné et on dit la vérité, on dit même que lorsqu'on apporte exactement les mots qu'on a reçus, les lèvres de rabbin qui est mort commencent à bouger aussi, et on voit qu'il dit la même et qu'il s'aperçoit qu'on dit la même chose. C'est une très belle image pour montrer que lorsqu'on rapporte un enseignement d'un maître, mot pour mot, eh bien, dans sa tombe, dit-on, les lèvres du rabbin remuent, et c'est comme s'il est en train de répéter ce qu'il a dit. Mais c'est une belle image pour montrer effectivement qu'on est fidèle et créateur en même temps. La fidélité, elle est créatrice. C'est-à-dire que l'interprétation que donne le rabbin, il est toujours fidèle Voilà, c'est moi qui l'ai reçu. Mais il est créateur, parce qu'interpréter, c'est toujours créer. Et interpréter, c'est pas répéter simplement, c'est pas reproduire ni imiter passivement ce qu'on a reçu, c'est ajouter quelque chose dans son propre terme, ce qui n'a pas été donné. Et donc, il faut être fidèle et créateur. C'est un enseignement que j'ai reçu d'Armand Abécassis notamment, que Manitou, Léon Ashkenazi, disait aussi souvent. Cette idée très importante, c'est que, et les rabbins du Talmud le disent à leur manière, il n'y a pas de Beit HaMidrash sans Chidouche, c'est-à-dire qu'on peut enseigner et reprendre l'enseignement des maîtres qui nous ont précédés, mais en ajoutant quelque chose. Et
ça, c'est la nouveauté ne peut venir que de la reprise, c'est ça qui est intéressant, parce que sinon on piétinerait, voilà, on ne saurait pas ce qui a été dit. Voilà. Donc il faut reprendre pour être neuf.
Voilà. Il faut toujours reprendre, être assuré que ce qui a été entendu a été bien dit, et ça c'est difficile, être assuré complètement que ce qu'on a entendu de la bouche de tel maître, on l'a bien entendu à tel point que dans la Gemara, on voit souvent ces discussions, des deux élèves devenu maître, bien sûr, ayant entendu un maître qui leur a enseigné, moi j'ai entendu ceci et moi j'ai entendu cela. Alors qu'ils ont reçu le même enseignement, ils apportent des points de vue opposés. Comment l'enseignement, c'est ça la grande richesse de maître, il dit quelque chose et il fait entendre à l'élève deux choses différentes. Donc il faut comprendre que dans l'énoncé du maître, il y a la possibilité d'entendre deux choses différentes, voire opposées.
Avec ça, vous êtes en train de détruire l'université, parce que l'université, on voudrait que tout le monde entende la même chose, et alors après on fait des examens pour vérifier que tout le monde a bien entendu ce que pensait le maître et pas autre chose.
C'est pour ça qu'une université, c'est pas une université.
Oui, c'est ça. Donc c'est une très, l'université s'est fait à partir d'une pensée de la vérité qui n'est pas celle que vous énoncez.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous avez la recherche, moi, de la vérité avec un raisonnement démonstratif. Il y a le raisonnement, disons, juridique, qui fonctionne par argument, alors que le raisonnement, disons, spéculatif et scientifique dans toutes les sciences est démonstratif. C'est-à-dire, quelque part, on cherche à partir d'une hypothèse à la vérifier et à partir d'une prémisse à déduire, à démontrer les conséquences qui sont impliquées déjà dans le principe, dans la première prémisse. Donc, la logique occidentale n'obéit pas du tout à la logique juridique juive n'obéit pas du tout à la logique aristotélicienne, par exemple.
Ça, mais alors, on peut se poser deux questions. Alors, d'abord, comment justement on travaille dans une yeshiva, parce que ça c'est la chose. Si c'est pas comme à l'université, il s'agit de dire, d'être savant comme le maître et donc de dire la même chose qu'il a dite sans faute justement et sans invention, pourrait dire.
Mais elle est sûre que...
et ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est comment la communauté juive fait pour ne pas exploser. Parce qu'on pourrait dire, si chacun a son interprétation, et si on est dans la polémique permanente, pourquoi est-ce que cette communauté-là ne va pas, chacun va partir de son côté, finalement.
Il est vrai aussi. Mais la communauté, il se trouve, et les rabbins ont pris conscience de cela, c'est qu'elle est, grosso modo, pour qualifier un peu ça de manière un peu triviale, voire péjorative, elle est ignorante. Donc, la plupart des gens n'ont pas eu le temps parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des occupations autres que celles d'étudier de manière permanente le texte du Talmud ou des lois qui ont été formulées par certains. Eh bien, on va leur donner, entre guillemets, des facilités. On leur donne, voilà, la réponse à telle situation, voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que les gens qui travaillent, qui sont dans le monde, dans les activités mondaines et qui n'ont pas pris le temps d'étudier, passer leur temps à étudier, eh bien, ils n'ont pas eu la chance, comme d'autres, à étudier, approfondir, à tirer normalement. Dans l'absolu, il faudrait que chaque juif puisse étudier avec des maîtres, de telle sorte qu'il puisse tirer la leçon et la conséquence de ce qu'il a entendu. Mais on n'est pas à ce niveau-là.
Et faire du neuf à partir de la tradition.
Voilà. Donc c'est très difficile parce qu'il faut vraiment étudier, approfondir, réfléchir. Et ça, c'est le rôle de ce qui a lieu dans les grandes yeshivotes.
Alors justement, dans la yeshiva, il y a cette manière de travailler où à la fois on assume l'aspect polémique, mais aussi l'aspect de communion ou de communauté, je dirais, entre là. Comment est-ce que se joue un travail de...
Oui, mais ce n'est pas la communauté au sens large du terme, avec tous les membres qui sont répartis dans des activités, disons, professionnelles, des activités, disons, qui sont de notre temps. C'était vrai déjà à l'époque, il y a des gens qui étaient agriculteurs, donc qui étaient commerçants, et donc ils partaient, ils n'avaient pas le temps d'étudier. Mais il y a l'exigence, cependant, qu'on demandait au moins prendre un temps dans sa journée pour étudier. Un temps. C'était pas limité à une demi-heure, une heure, peu importe, mais un temps dans sa journée pour pouvoir étudier la Torah.
Alors, comment travaille-t-on justement dans une yeshiva?
Alors, dans une yeshiva,
c'est pas l'université, donc alors
comment? Du tout. Alors, il y a une première formation, quand c'est celle de l'école, disons, traditionnelle de la yeshiva, on commençait au cheder, c'était l'école d'initiation. On apprend à lire le texte de la Torah, on apprend à lire d'abord, Et puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on lui apprend à lire, à étudier le Tanakh entièrement, on apprend à lire
la Bible,
de manière générale, elle comprend le texte de la Torah, assorti des commentaires, disons, premiers qui sont ceux de Rashi, etc. Et au fur et à mesure, on lui amène à comprendre la Gemara et le Talmud, la Mishnah et la Gemara. Et donc là, c'est déjà une certaine forme de maturité. On apprend à décrypter, à décoder plus exactement les règles qui composent cela, à
donc,
lire
donc
et
d'abord
à comprendre.
À lire d'autres rabbins, des interprétations classiques, traditionnelles du Talmud, où déjà des rabbins sont en débat entre eux autour de l'interprétation.
C'est très difficile. Ouais. Il faut déjà lire et comprendre ce qui se passe dans le jeu. Et ça prend beaucoup de temps parce que lire simplement, on ne comprend pas. Il faut que le maître soit même de voir quelle est la question qui est posée derrière l'interprétation. Parce que lire et traduire comme ça, ça ne sert à rien, parce qu'il y a tout un travail de compréhension pourquoi les choses étaient dites de cette manière-là. Qu'est-ce que les rabbins, dans leur discussion, sont en train de parler. Mais ça, c'est au fur et à mesure que l'enfant avance, il est censé comprendre ce qui se passe. Et donc, les outils qui sont à disposition des maîtres sont les grands commentateurs, les classiques, qui sont Rashi, Tosfot, etc., des maîtres de la...
Donc déjà un enseignement qui se fait sous le jour de la multiplicité.
Tout à fait.
Avec, voilà, diverses interprétations qui sont...
Et donc, alors surtout ce qui se passe dans les Shiva, c'est qu'il y a un cours qui a lieu avec un maître, et, voire deux, de Gemara ou de Midrash, ou de textes de Torah, etc. Et le reste du temps, les élèves sont à ce qu'on appelle en Havruta, ils sont à deux, ils reprennent, ils répètent l'enseignement qu'ils ont reçu, ils approfondissent, ils essayent de comprendre par eux-mêmes ce qui a été dit, indépendamment de manière autonome, pour qu'ils puissent avoir la maîtrise du texte. Mais c'est au quotidien, c'est-à-dire qu'il faut vraiment passer du temps et du temps dans des discussions à deux pour pouvoir, ça c'est le travail Yeshiva classique, disons, pour l'étude de la Torah.
Ils se mettent à deux en vis-à-vis, mais est-ce que justement c'est là que se joue cette pratique qu'on appelle celle du pile-poule?
Pas nécessairement.
Poivre et sel, mais c'est-à-dire dans l'idée que le par deux veut dire aussi, éventuellement, chacun va adopter une position contraire face à l'interprétation.
Pas les élèves, pas ceux qui étudient les chivotes, non. Ils ne sont pas en mesure de faire ça. Ils ne sont pas encore en mesure de découvrir quelque chose. Il faut qu'ils reprennent, qu'ils comprennent les argumentations telles qu'elles sont explicitées, telles qu'elles sont énoncées dans le Talmud.
D'accord.
C'est déjà un effort qu'ils ont.
Après, c'est dans un second temps, alors, quand on...
Ah oui, quand ils arrivent à un certain âge, ils sont incapables de comprendre, de venir mettre à leur tour et pouvoir enseigner. C'est-à-dire qu'il faut se remplir, comme dit le texte, se remplir l'estomac de Talmud et de Tanakh avant d'entrer dans l'enseignement, en tant que tel. Il faut être rempli de discussions et maîtriser parfaitement le Talmud. Et quand on voit l'ampleur des énoncés et qu'il faut du temps et du temps pour maîtriser l'ensemble des textes, on s'aperçoit que ceux qui étudient de manière continue et permanente et au quotidien ces textes, on voit qu'il faut beaucoup de temps, il faut répéter, s'imprégner effectivement le vécu, l'étude n'est pas abstraite comme on le ferait dans un cours de philosophie ou dans un cours de littérature. La différence, elle est essentielle parce que ce que faut comprendre les rabbins, c'est qu'il faut comme si on était nous-mêmes présents au moment de la discussion. Il faut se rendre comme si on assistait au débat qui avait lieu entre les rabbins dans le Talmud.
C'est
comme ça qu'on peut comprendre. Il faut pénétrer le texte, pas simplement de manière scripturaire, pas de manière dont le texte s'énonce, mais entrer dans la discussion, comme si on était là. On se met à la place de ceux qui sont en train de discuter et on est en train de revivre pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire.
Est-ce qu'il y a cette différence que développe Jean-Claude Milner dans son très beau livre, là, le Juif de Savoir, où il dit, voilà, le monde moderne a inventé la Wissenschaft, donc la science, hein, il prend le mot allemand parce que l'université allemande était vraiment le lieu d'un rapport... historico-critique au texte, donc le rapport historico-critique, c'est à investir les méthodes des sciences historiques pour lire un texte sacré et le démystifier. Mais il dit, c'est un savoir qui dès lors devient un savoir désembrayé, je n'y suis plus. Je suis là en simple spectateur d'une pensée qui se déroule devant moi d'une certaine façon, d'un enchaînement de concepts qui se déroule, mais il n'y a plus cette implication existentielle, alors que là, l'exercice de la pensée, c'est toujours à l'intérieur d'une filiation, en son nom propre, que ça se fait dans le judaïsme, où on reprend, où on se met dans la position finalement du rabbin qu'on commente ou c'est toujours embrayé quoi.
Voilà, tout à fait. Ouais. C'est une grande différence, elle est là, à tel point que précisément ce qui fait la longue différence entre la pensée philosophique où chaque penseur, chaque philosophe développe sa propre pensée, il est seul avec lui-même, alors que la pensée vraie dans ce que dit Levinas par exemple, la pensée vraie dans l'esprit du judaïsme, c'est la pensée à deux. On ne peut pas penser seul. Et ça, il n'y a pas un auteur, il n'y a pas de concept, il n'y a pas une philosophie de Rabban Gamliel, de Rabbi Akiva.
On pense par l'autre, on ne pense pas par soi-même, voilà, finalement. Ouais, enfin, ouais. On pense soi-même toujours par l'autre.
Pas par l'autre, voilà. C'est l'autre qui suscite la question, l'interrogation. C'est un dialogue vraiment de contestation, d'opposition. Tu as dit ceci, etc. Et c'est important qu'on pense ça parce que c'est la manière de parler, de dire les choses, encore une fois, qui est très importante parce que on ne voit jamais ni dans les essais des sciences humaines, ni dans les philosophes, de débat. Ils débattent avec personne. La recherche humaine n'est pas, comme dit Levinas, c'est l'exercice d'une pensée silencieuse. Comme dit Platon, c'est la pensée.
Dialogue avec soi-même.
Voilà. En fin de compte, c'est le philosophe lui-même qui est en train d'élaborer sa propre discussion dans le silence. Alors que le débat d'un Munich, c'est un débat qui est vivant et qui implique qu'on s'implique véritablement dans la discussion.
On pourrait dire que la philosophie est toujours placé dans cette alternative, soit de reprendre exactement le même discours et d'entrer dans un système qui a déjà été élaboré, soit de dire j'invente mon propre système. Donc il y a toujours soit cette sorte de soumission ou alors d'affirmation absolument originale ou excentrique en rupture, alors que là, on est toujours à deux, donc il y a à la fois de la tradition et une originalité, une personnalité finalement
forte. Ouais, tout à fait.
Forte.
La preuve, c'est qu'on l'énoncé, c'est qu'on dit que voilà la thèse, la position, plus qu'une thèse, la position, l'argument qu'énonce tel rabbin. On dit tel rabbin, on cite la mention de sa pensée, de son expression, à telle sorte qu'on puisse la reprendre, la ruminer, la réinvestir de nouveaux sens, alors même que lui n'a pas voulu dire autrement ce qu'il est en train de dire.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, on doit conclure, mais si je reviens sur cette question de la pensée grecque et de la pensée juive, le modèle de la transmission dans la pensée grecque, c'est finalement la science, parvenir à une même science, et au final, il y a deux savants. L'autre savant sait ce qu'il a appris de son maître, mais en même temps, il peut avancer toujours sur la même voie, progresser, développer la pensée de son maître ou développer la pensée tout court. Alors que le modèle ici, c'est pas celui de la science dans la transmission. Est-ce que ce serait pas plus le modèle, on l'avait dit, de l'engendrement ou de la filiation? Parce que justement, on sait très bien comment ça se passe dans une famille. On est lié, on est quand même le fils de son père. Et en même temps, on n'est pas toujours d'accord.
Ouais, tout à fait.
On s'engueule dans la famille.
Tout à fait.
Mais on est ensemble. On a l'impression que ce qui maintient à la fois l'aspect polémique et la profonde sympathie et unité, je dirais, le fait que chacun à la fois reprend et met du neuf en reprenant, est-ce que ça ne veut pas dire que justement le modèle, c'est l'engendrement et non pas la déduction, et non pas la science, finalement.
Tout à fait. En effet, c'est juste parce que l'idée de faire naître quelqu'un qui n'a pas existé, faire exister quelque chose, c'est à nouveau. Dieu a fait exister le monde. Abraham a fait exister son fils. Le fils a fait exister son père. Dans le dialogue entre père et fils, entre le maître et l'élève, on fait exister l'autre. C'est ça, tout l'apport de l'interprétation. On fait exister un sens en supposant qu'il n'était pas là auparavant. Alors même qu'il était là, mais sans être là, c'est dans ce creux, dans cette absence, qu'on livre l'interprétation. Et c'est toujours à ce niveau-là, au niveau de l'absence, au niveau du manque, que se trouve précisément la source de l'interprétation. C'est au niveau d'un manque qui est positif, dans une créativité continue, que se trouve l'interprétation. Il faut comprendre, c'est très important, cette idée, que chacun finalement croit pouvoir énoncer quelque chose qui n'a pas été dit. Tout a déjà été dit au niveau de la parole du Sinaï. Mais ça veut dire aussi que quelque chose aura manqué. Et c'est dans ce manque-là, dans cette absence, qu'on trouve la possibilité infini d'interpréter. C'est dans ce recul, dans cette retrait dans lequel se trouve le maître par rapport à l'élève, ou l'élève par rapport au maître, que se trouve la possibilité d'innover. Et c'est ça la grande différence avec la vérité qui est recherchée dans la philosophie ou dans la science. C'est que, au-delà de ce qu'on est capable de dire ou de penser, il y a toujours cette manière de faire exister l'autre avant moi. Et c'est dans cet aspect-là, je crois que...
C'est la plus grande fécondité du maître, finalement, de faire exister l'autre de telle sorte qu'il lui fait face, et qu'à ce moment-là, il y aura du nouveau qui créera aussi le différent, voilà, au sein de la différence.
Voilà, tout à fait. Et c'est un exemple très, 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 très pertinent au niveau de la filiation et l'engendrement quand on parlait tout à l'heure. Lorsque Dieu a demandé à Abraham d'amener son fils ce qu'on appelle le sacrifice, faussement dit, et c'est l'élévation, c'est le mot Aliya, il lui fait monter son fils sur la montagne du Moria, l'endroit que je te montrerai. Eh bien, il va faire monter son fils, mais il est accompagné d'Eliezer et d'Ishmaël. Et il dit aux deux personnes qui l'accompagnent, donc Eliezer, son serviteur, et Ishmaël, son fils, de rester là, au pied de la montagne, mais je vais monter avec Isaac, et le texte dit, et nous reviendrons. Ça veut dire que contrairement à à ce que la pensée chrétienne a pu lire dans ce texte, non, il ne s'agit pas de sacrifier le fils totalement, il s'agit de l'initier pour montrer que le père doit prendre conscience de la nécessité qu'il a de faire exister le fils, et dans cette limite-là, nous reviendrons ensemble. Jamais Dieu a demandé de mettre fin à l'existence du fils. Contrairement à ce qu'on peut penser par ailleurs, il y a dans l'idée très importante de laisser la place à l'autre, de telle sorte que le fils puisse non pas prendre la place du père, mais devenir père à son tour. La grande leçon de ce texte, et qui est commenté souvent par le Midrash, c'est que, c'est, comme dit le Rav de Brisk, c'est que c'est pas le sacrifice du fils, c'est le sacrifice du sacrifice. C'est le père qui a donné par lui-même la limite en faisant exister le fils. Il a sacrifié la partie paternelle. La preuve, c'est que après, c'est le bélier qui représente le père, et non pas l'agneau, le fils qui a été sacrifié. C'est la partie paternelle qui va jusqu'au bout, qui a été sacrifiée, qui montre la limite dans laquelle on fait exister l'autre. Et tout l'enseignement du maître par rapport à l'élève, c'est ça. Le maître pousse son élève jusqu'au bout, sans le sacrifier, sans avoir un pouvoir, une possession sur lui, pour faire exister le fils, il vous donne la capacité d'être père à son tour. Et l'engendrement,
il fait
sa place. Et c'est ça que toute la richesse de l'interprétation du Midrash, c'est le Midrash, c'est cette capacité qu'on a de créer quelque chose de nouveau dans la filiation de l'engendrement de quelque chose de nouveau, un nouveau sens.
Merci Jacques. Notre émission s'arrête ici. C'est fut un plaisir de vous accueillir.
Merci.
Est-ce que vous pouviez recommander, je ne sais pas, un livre d'initiation justement au Talmud, alors pour un auditeur?
Il y a effectivement, me semble-t-il, il y a plusieurs qui ont été élaborés. Il y a d'abord le texte, je crois, de Adin Stalzels, un grand maître d'Israël qui a traduit en hébreu le texte araméen de Talmud, qui a écrit un livre sur le Talmud. Et il y a, me semble-t-il, aussi un livre de Ernest Guggenheim, l'ancien grand rabbin, qui était directeur du séminaire israélite de France, qui s'appelle Les Portes de la Loi. Il y a d'autres ouvrages sur le Talmud que je n'ai pas présentement à l'esprit, mais que vous pouvez trouver dans n'importe quelle bonne librairie juive, en Suisse comme en France. Et il y a effectivement tous les ouvrages, là je recommande parce que bon, je suis trop attaché par lui, d'Amar Ben Cassis, La pensée juive d'une part en plusieurs volumes, et l'hébraïsme et le judaïsme, qu'il écrit au pluriel d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs judaïsmes et pas un seul comme on a tendance à le croire.
Très bien. Merci Jacques. Les auditeurs pourront écouter aussi la conférence que vous avez donnée à l'Institut sur le Maharal de Prague. C'était « Entre nous, soit dit, pensée juive et pensée grecque » avec Jacques Götschel et toujours Marlène Caron à la technique. Merci et à bientôt.